Alors, vous avez remarqué que la semaine dernière, j'ai pris une référence dans le prophète Daniel, et c'était l'occasion de nous pencher sur le secours que nous avons en Dieu, la confiance que nous pouvons mettre en Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis encore laissé inspirer par une parole qui est dans le prophète Daniel, tout simplement parce que le prophète Daniel, en ce moment, nous l'étudions à l'étude biblique le mercredi soir et le jeudi, les sœurs. Alors, je vous exhorte à vous joindre à cette étude. Nous n'avons jamais fait l'étude systématique du livre de Daniel. Et là, nous progressons maintenant dans cette étude. Et nous en sommes donc au chapitre, nous allons arriver au chapitre 4 pour l'étude biblique. Mais dans l'émission de radio, nous avons un peu d'avance et nous en sommes déjà au chapitre 7. Et donc ce matin, je lisais ce chapitre lors de l'émission, alors avec quand même une limitation pour les commentaires, parce que on va pas commenter à la radio de la même façon que dans notre étude, où nous essayons d'aller quand même un peu plus loin. Mais justement, de devoir donner de façon simple l'étude à la radio, ça permet parfois de ne pas se perdre dans toutes sortes de détails et d'aller à l'essentiel. Mais ici, tout simplement, au chapitre 7, nous arrivons à ce moment où le prophète Daniel reçoit une vision. Jusqu'à présent, nous l'avons vu interpréter les visions et les songes. Et en particulier, donc au chapitre 1, verset 17, dès le commencement, dès sa jeunesse, alors qu'il vient d'arriver à Babylone, il est dit au sujet de Daniel, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens, puisqu'il avait trois compagnons qui marchaient dans le même esprit de consécration à Dieu, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et nous le voyons donc au chapitre 2, expliquer au roi Nebuchadnezzar un songe dont le roi ne se souvient même plus. Donc Daniel reçoit, lorsqu'il s'est mis en prière pendant la nuit, le songe et son explication. Et puis au chapitre 4, nous le voyons expliquer au roi une nouvelle vision que le roi a eue concernant sa propre destinée. Et voilà, il interprète donc les songes qu'on lui présente, les visions et les songes qu'on lui présente. Mais ici, au chapitre 7, nous lisons la première année de Belshazzar, roi de Babylone. Alors, il y a eu donc différents épisodes depuis là, en particulier au chapitre 5, il y a eu la chute de Babylone, avec le roi qui a succédé à Nebuchadnezzar qui a profané les ustensiles du temple de Jérusalem. Et donc Dieu a fait chuter ce royaume de Babylone. Et puis au chapitre 6, il y a eu le roi Darius, donc le roi Mède, qui a s'est laissé influencer à faire une loi qui ne demandait que de le prier que lui seul. Et Daniel a résisté, bien sûr, à cette injonction. Et il s'est retrouvé dans la fosse aux lions et il a été délivré de cette fosse aux lions. Donc toute la vie de Daniel, en fait, s'est déroulée sur ce mode-là. Fidélité à Dieu et révélation de la part du Seigneur. Et donc là, il y a un petit retour en arrière puisque c'est la première année de Belshazzar, roi de Babylone. Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Voilà, Daniel reçoit, alors qu'il est en train de dormir, un songe. Alors, en général, Donc, bon, vision, ça peut concerner aussi des révélations pendant la nuit, mais d'une manière générale, dans l'Écriture, lorsqu'il est question de songe, ben, c'est le rêve qui a un sens divin. Et quand il est question de vision, ça peut être pendant la journée, pendant un temps de prière, une révélation qui est donnée sous une forme particulière. On trouve cela en particulier avec Pierre lorsqu'il est en train de prier à midi et où Dieu donc lui envoie une vision concernant en fait ce qu'il a prévu pour l'accueil des païens. Mais voilà, c'est une vision alors que Pierre est en train de prier. Donc de manière générale, le songe, bah, c'est pendant la nuit, la vision, c'est pendant un temps de prière. Alors, voilà, très jeune, Daniel interprétait les songes. Nous avons un autre jeune homme qui très, très rapidement a lui aussi reçu des songes et interprété les songes. C'était Joseph. Hein? Et voilà, c'est des hommes qui ont une relation particulière avec Dieu parce que c'est Dieu qui les a formés de cette manière. Et on peut dire qu'en ce temps-là, Dieu instruisait beaucoup par les songes. D'ailleurs, il confirme dans le livre des Nombres, au chapitre 12, alors qu'il y a une contestation contre Moïse de la part de Marie et Aaron, sa sœur et son frère, hein. Dieu leur dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Voilà la manière habituelle pour Dieu de parler par un prophète, en accordant des songes et des visions. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Et je lui parle de bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Moïse était un serviteur de Dieu à part, hein, qui n'avait pas besoin de vision et de songe parce que Dieu lui parlait directement. Ça, c'est quelque chose qui est remarquable, et c'est pour cela que, voilà, Moïse, c'est celui qui a donné la loi, hein, et il n'y en a qu'un seul qui pouvait ensuite remplacer et surpasser Moïse, c'est tout simplement Jésus lui-même qui recevait ces paroles de Dieu son Père et qui les transmettait pour notre édification et notre salut. Mais donc dans ce temps-là, bah, Dieu parlait par les songes et les visions à ses prophètes, même à des païens d'ailleurs, puisque le pharaon avait eu aussi un songe ben, dont il ne comprenait pas l'explication, Nebuchadnezzar a eu des songes dont il ne comprenait pas l'explication, donc Dieu leur donnait les songes, par contre ils n'étaient pas capables de les interpréter, ils avaient recours aux serviteurs de Dieu, aux prophètes de l'Éternel, pour comprendre ce que Dieu voulait leur enseigner. Et donc, ceci étant, bien sûr, nous voyons Dieu parler de nombreuses fois à travers des songes et des visions, mais pour nous, le temps est raccourci. Hein. Il existait aussi des périodes sans vision, où il n'y avait pas de vision. C'est rapporté dans le Samuel au chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Voilà, il y a différentes périodes dans l'histoire du peuple de Dieu et il y a des temps où les visions ne sont pas fréquentes. Et dans ces temps-là, eh bien, la parole qui a déjà été donnée est suffisante pour édifier les croyants. D'ailleurs, il faut même à ce moment-là s'en tenir uniquement à la parole écrite et ne pas tomber dans les fausses visions, les fausses révélations, les fausses prophéties pour entretenir, on peut dire, voilà, une sorte de système, hein, de gouvernance spirituelle qui prétendrait continuer à être directement inspiré par Dieu. Dans le prophète Jérémie, il y a cette indication et cette réprimande de la part de Dieu au chapitre 23. En fait, tout le chapitre 23, c'est Dieu qui reprend les conducteurs de son peuple. Et au verset 16 à 18, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. » Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendue? Et un peu plus loin, le verset 25 à 32, « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom en disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et leurs témérités. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Voilà donc, il y a de bonnes raisons de se méfier des songes de certains dans certaines périodes de la vie du peuple de Dieu. Et il n'empêche que le Seigneur continue de parler par des songes et des visions. C'est une constante dans la vie du peuple de Dieu, et donc l'Église elle-même, à son commencement, a eu une grande période où le Seigneur parlait par des songes et des visions. Je vous ai mentionné Pierre tout à l'heure, qui a été averti par une vision d'aller prêcher aux païens. Si nous prenons le témoignage de l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres, eh bien nous voyons également qu'il est envoyé par une vision vers les Européens, hein, puisque jusqu'à présent il avait prêché en Asie, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant une nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc ça correspond bien sûr à cette action du Saint-Esprit qui conduit ses serviteurs, qui conduit les apôtres, qui agit à travers eux en leur faisant des révélations particulières. Et ça correspond d'ailleurs à ce que Pierre donc, dit le jour même de la Pentecôte, hein, dans les derniers jours, dit Dieu, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, il est clair que l'action du Saint-Esprit de Dieu entraîne en fait la prophétie, c'est-à-dire l'annonce de la parole de Dieu, et que les visions, les songes alimentent la prophétie. Et ça fait partie, c'est une réalité dans la vie de l'Église qu'il y ait des visions et des songes pour donner au peuple une indication concernant qui vient vraiment du Seigneur, qui concerne l'œuvre de Dieu, pas des questions personnelles, mais des questions qui ont trait à la prédication du salut, à l'avancée de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, à chaque fois que dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, il y avait des visions, des révélations aux prophètes, c'était à des périodes où justement il y avait des bouleversements, des changements dans la direction dans la vie politique de la nation, dans la vie spirituelle. Et donc le Seigneur confirmait et donnait son plan à ses serviteurs à travers les visions qu'il leur accordait. Donc la présence de l'Esprit à la Pentecôte et en chaque croyant laisse entendre que chaque enfant de Dieu peut être visité par le Saint-Esprit, peut recevoir des songes, des visions qui ont trait à l'édification de l'Église, qui sont là pour que la parole de Dieu soit échangée, soit transmise entre les enfants de Dieu. Dans la première aux Corinthiens, nous lisons donc au chapitre 14, verset 3, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Voilà ce qui est censé se passer au milieu des croyants par l'inspiration du Saint-Esprit, des paroles qui édifient, qui exhortent, qui consolent. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, pas seulement une bonté humaine, pas seulement un travail, un amour des frères et sœurs qui vont les uns vers les autres pour se parler et s'encourager, mais ça fait partie bien sûr de nos relations, mais aussi des paroles reçues directement du Seigneur pour exhorter les frères et sœurs. Donc que ce soit dans le domaine de la mission, là où il faut être dirigé plus spécialement par le Seigneur, que ce soit dans la vie interne de l'Église, l'édification mutuelle, les visions, les songes ont leur part, ont leur réalité. Et nous devons être attentifs et aussi demander au Seigneur de nous accorder par son Saint-Esprit ce genre de révélation. Et puis il y a nos vies personnelles. Peut-être qu'il faut d'abord comprendre que Dieu est à l'œuvre dans certains de nos rêves, tout simplement. Il est écrit déjà dans l'Ecclésiaste que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Puis dans Job aussi, que lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil, Dieu est à l'œuvre pour les instruire. Donc aussi, Dieu travaille aussi pendant nos nuits, j'en suis convaincu, pour nous avertir ou bien nous encourager d'une manière ou d'une autre par des rêves. Et je crois que certains rêves pourraient peut-être être partagés utilement à l'Assemblée. Parfois, je sais que certains ont pu exprimer ce qu'ils avaient reçu parfois dans un rêve, et c'est encourageant de savoir que le Seigneur parle à l'un ou à l'autre à travers un rêve, et qu'il encourage de cette manière, et qu'il fortifie la foi à certains moments à travers un rêve. Donc ne craignez pas de le faire si le Seigneur un jour vous accorde un rêve particulier qui peut édifier d'autres croyants. Eh bien, n'hésitez pas à le partager, à l'échanger, à le dire aussi, parce que cela sera utile. Et cela rappellera que vraiment, Dieu, par son esprit, travaille. Dieu travaille. Dieu n'est pas absent de nos vies. Et s'il est à l'œuvre dans nos vies, eh bien, alors il peut aussi donc, nous parler directement à travers un rêve ou une vision. Et puis, bien sûr, le Seigneur pourra accorder des révélations plus, peut-être plus conséquentes pour avertir l'Église, la préparer aussi pour les temps qui viennent. Nous devons penser que dans les temps difficiles qui s'annoncent, le Seigneur aura aussi des encouragements à travers des visions, des révélations. D'ailleurs, il est notoire que pour ceux qui sont dans le contexte musulman, beaucoup se sont convertis, ont été encouragés et sont dirigés à travers des visions que le Seigneur leur accorde. Le Seigneur travaille beaucoup au sein de l'islam par des visions et des songes qui permettent justement à ceux qui sont entourés de cette pression spirituelle et sociale qui les empêcherait de s'approcher de Dieu, eh bien, ça leur permet d'être instruits directement par le Seigneur. Et beaucoup d'anciens musulmans peuvent témoigner comment le Seigneur s'est révélé à eux à travers des visions et des songes. Donc, ne craignons pas, nous, d'être visités aussi, instruits du Seigneur, directement, spirituellement, à travers ce qu'il pourra nous accorder. Mais lorsqu'on reçoit des paroles du Seigneur, c'est pas forcément, alors c'est pour nous encourager bien sûr, mais ça peut aussi produire des interrogations et du trouble. Et Daniel, le premier, lorsqu'il reçoit la vision du chapitre 7, lorsqu'il reçoit la vision, il est dit au verset 15: moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Et au verset 28, ici finir les paroles: moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur. Donc vous voyez que recevoir une révélation de Dieu qui concerne son plan, ce qu'il va faire, qui concerne le salut ou le jugement du monde, forcément ça peut aussi être difficile à intégrer. Et il est dit ensuite: et je conservais ces paroles dans mon cœur. Voilà, Daniel reçoit, il s'inquiète du sens de cette vision, ça le bouleverse, parce qu'en fait, les visions de Daniel amènent une description du plan de Dieu dans l'histoire entière, jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est pas n'importe quoi comme vision. Et il est très inquiet donc de ce qui va se passer, finalement, à la fin des temps. Mais, il conserve ses paroles dans son cœur. Il médite sur ce qu'il a reçu. Ça me fait penser d'ailleurs que dans l'évangile, Marie, lorsque Jésus est né, les moments particuliers de l'œuvre de Dieu. Lorsque Jésus est né, dans Luc 2, 19, il est dit que donc, alors que les bergers sont venus donc adorer le Seigneur, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et puis un peu plus loin, au verset 51, lorsque Jésus a commencé à grandir et qu'il s'est passé cette rencontre avec les docteurs dans le temple de Jérusalem alors qu'il avait 12 ans. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Il y a donc des temps de méditation où les choses sont révélées par Dieu, mais où on n'a pas toutes les explications et où il faut tout simplement rester attentif, rester dans la communion du Seigneur pour que, être prêt pour le temps qui suivra. Être attentif aussi, ça n'empêche pas Daniel. Donc, alors qu'il reçoit des révélations directes du Seigneur, ça ne l'empêche pas d'être aussi un homme de l'Écriture. Au chapitre 9, nous lisons la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Daniel lui-même était attentif à ce qu'un autre prophète avait reçu de Dieu quelques années auparavant. C'est pas vieux, Jérémie est contemporain de Daniel, en fait. Il a juste précédé un peu Daniel, et Jérémie est resté, lui, à continuer à avertir le peuple d'Israël à Jérusalem, alors que Daniel était déjà donc déporté à Babylone. Eh bien, les paroles de Jérémie étaient déjà reconnues comme paroles de Dieu, elles étaient déjà écrites, et Daniel méditait la parole du Seigneur à travers le livre envoyé, probablement donc transmis par Jérémie. Et il était donc de ceux qui méditaient cette parole, et c'est là que, ayant lu ces paroles au sujet des 70 ans pour la ruine de Jérusalem, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc, Daniel ne se contentait pas, bien sûr, de recevoir des révélations. Il cherchait aussi la compréhension auprès du Seigneur à travers des temps de prière, de jeûne. Au chapitre 10, verset 2, il est dit, versets 1 et 2, « La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » Voilà donc le caractère de ce prophète, sa disposition à chercher, à être consacré à ces révélations du Seigneur. Il prenait le temps de la méditation de la parole, il prenait le temps de la prière, et lorsqu'il recevait lui-même une révélation, il la rapportait et essayait encore de comprendre donc ce qu'il recevait de la part du Seigneur. Donc, il était complètement consacré à son Seigneur et à cette révélation qui concerne l'histoire, en fait, du peuple de Dieu au sein d'un monde qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a pu nous apporter une prophétie fondamentale qui est l'objet de la méditation des chrétiens depuis donc des millénaires maintenant, d'abord des juifs et maintenant des chrétiens. Et que, lorsque nous connaissons Daniel, Nous pouvons aussi comprendre mieux l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, en fait, reprend les figures des prophéties de Daniel, et que nous pouvons nous préparer nous-mêmes dans un esprit de sainteté, de consécration. Nous pouvons nous préparer pour les temps qui viennent et pour être fidèles, justement, face au régime anti-Dieu qui se met en place de nos jours. Donc voilà, le Seigneur veut encore, je crois, se révéler à travers des visions, à travers des songes, sur la base de la méditation de sa parole, en recherchant, en se consacrant. J'avais envie de dire, et je le dis quand même, que pour qu'il y ait des visions, il faut certainement qu'il y ait moins de télévision, parce que on ne peut pas être plongé dans toutes sortes d'univers imaginaires en permanence, et puis entrer dans l'univers de Dieu par l'esprit. Hein. Donc il faut prendre le temps, il faut aussi se libérer de tout ce qui est production de la pensée humaine qui s'alimente elle-même par toutes les réflexions, les philosophies, les idéologies des hommes, et qui passe à travers beaucoup maintenant les médias, et se consacrer à la recherche du Seigneur lui-même par l'Esprit, par sa parole. Et là, le Seigneur va pouvoir, je crois, encore parler, édifier, donner des indications à ses enfants pour les temps qui viennent, et de sorte que nous soyons tenus fidèles et fortifiés pour continuer à annoncer aussi l'Évangile, rester dans un esprit missionnaire à l'heure actuelle. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et comme je l'ai dit, si vous avez un rêve, que vous pensez vraiment être quelque chose qui est particulier, qui peut édifier vos frères et sœurs, les encourager, eh bien, n'hésitez pas aussi à le partager au sein de l'Assemblée. Et puis, si c'est une parole qui est d'une vision dont il est incontestable que vous deviez la donner pour édifier l'Église, alors là, vous êtes responsable vraiment de le faire. Que le Seigneur vous bénisse.